Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
C'est bon, j'ai bien travaillé, j'ai toutes mes stats. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Enfin, bienvenue pas dans le podcast La Sueur, mais dans En Soum Soum. Vous le savez, chaque semaine, on se retrouve avec Chris, on analyse les cartes UFC. Et là, UFC 276, on est très 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 chaud. Pourquoi ? Parce que the best is blessed, c'est le retour du patron, c'est le retour de Max Holloway, il y a aussi Israel Adesanya, il y a plein de monde, il y a Sean O'Malley, il y a Sean Strickland d'Alex Pereira qui passe un petit peu sous les radars, mais qui devrait, selon toute vraisemblance, décerner le prochain à avoir le title shot chez les middleweight. Générique. Swear.
Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat ? En combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari.
Bon Chris, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Max Holloway Volkanovski numéro 3. Moi je suis très chaud, vous le savez, je suis team Max Holloway jusqu'à la muerte. J'adore ce gars, j'ai envie qu'il reprenne son titre. Mais... Volkanovski m'impressionne tellement, s'adapte tellement, que je me dis, quoi qu'il arrive, quoi que Max Holloway va faire, il aura un, s'il ne le met pas KO, et d'ailleurs c'est ce que j'ai aimé aussi, enfin bref, c'est une question globale Chris, mais ce que j'ai bien aimé avec Max Holloway par rapport au combat différent, c'est que là il a dit, je serais très surpris que le combat aille au-delà du troisième round, et je rejoins Max Holloway, où pour moi en fait, Volkanovski, ce qui n'est jamais arrivé malheureusement, c'est, si je pense que c'est un gars, si tu ne le mets pas KO, tu ne peux pas gagner, parce qu'il va avoir le temps de s'adapter à ce que tu proposes. Donc je pense que Max Holloway peut effectivement faire un truc dans les 1-2 premiers rounds, mais s'il ne l'a pas terminé, il va forcément perdre à la décision parce qu'entre-temps, Volkanovski aura forcément trouvé les réponses.
Bien que le deuxième combat ait quand même été vachement serré, mais c'est clairement ça la directionnalité du deuxième combat, c'est 1-2 Holloway, 3 tout le monde hésite, 4-5 Volkanovski, c'est assez clair. Il y a quand même un juge qui a donné le cinquième à Holloway, ce qui provoque la split, mais j'aurais plutôt attendu un des trois ou deux des trois juges qui donnent plutôt le deuxième à Holloway. Est-ce qu'on peut commencer par faire un petit jeu ? Parce que j'ai prévu un jeu pour un peu décrire les deux athlètes en même temps. Ça vous va ou pas ?
Vas-y, ça dépend du jeu. Hein,
le but, c'est de dire « toc » au cinquième quand je le fais. J'ai simplement faire plusieurs tocs et il faut que vous soyez synchro avec mon cinquième. Vous êtes prêts ?
Ouais.
Alors, jeu numéro 1. Toc, 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 toc.
Toc, toc.
Oula.
Bah, j'ai dit au cinquième.
Vous étiez au sixième, là.
Mais non, j'étais au cinquième.
Allez, recommençons.
On recommence le même. Toc, 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 toc.
Toc, toc.
Mais c'est le sixième, ça, les gars.
Mais non!
On m'entend pas.
Si, il a raison. Bah, en gros, non, une fois que Chris a dit le cinquième toc, nous on dit toc. Donc ça représente.
Ah non,
le cinquième.
Vous devez dire en même temps que le cinquième.
Ah!
C'est mon énoncé qui est mon.
Ah oui, d'accord. Pour moi, c'était
bah non,
après
moi,
le cinquième.
Alors en même temps?
Non, tu le dis après.
Il faut dire en même temps que le cinquième.
Ouais, en même temps
que le cinquième. Ou alors il y a un décalage, il y a un décalage sur Zoom, mais ça va pas.
Oh, c'est
bizarre.
Il
y a un décalage, je pense.
Ah non, moi je pense pas. Je pense que t'es de mauvaise foi. Recommençons, Chris, pour moi.
Non, mais j'ai l'impression.
Jamais deux sans trois, comme on dit. Après, en plus, il y a quatre autres jeux. Normalement, le premier, tout le monde réussit.
Ça devait être le truc le plus simple.
Ok. Toc, 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 toc.
Toc,
toc, toc.
Ah, il y a vraiment un décalage.
Il y a
un décalage, mais on va dire que c'est bon.
Le mec, il s'énerve, okay. Il va péter la webcam. Toc, putain.
Deuxième jeu. On reste tout le temps sur le cinquième. Il faut dire en même temps que le cinquième. Okay. Bah, en même temps, ceux qui le font sur YouTube, ils vont mieux comprendre l'exercice du coup, parce qu'il n'y aura pas de décalage. Ok. Deuxième jeu. Toc, toc, toc. Toc, 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 toc.
Toc, ouais, bon. Ouais,
ok, vous comprenez la différence ?
Il est nul ce jeu. Ouais, ouais, non, je vois où tu veux en venir en plus, je pense.
Voilà, ok. Bon, on va quand même continuer. Maintenant, je vais pas dire que t'es toc, mais il faut quand même être synchro avec le cinquième et dire la même chose que ce que je vais dire au cinquième. Ok. Tic, toc, tic, tic, toc, Ok, vous êtes en retard et vous avez complètement.
Mais non, okay, mais non, il fallait dire au toc, c'est au cinquième toc.
Non, au cinquième, peu importe ce que je disais.
En tout cas, je vois où tu veux en venir et ça va être stylé. Ouais.
Et dernier jeu, toc, 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 toc,
toc,
toc.
Bref,
t'as vu où je voulais en venir.
Okay,
donc le jeu est facile la première fois parce que c'est toujours le même son que j'aimais et c'est toujours au même rythme avec la même
cadence,
le même timing entre chaque toc. Le deuxième est plus compliqué parce que je change de timing, je fais toc, 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 toc. Le troisième est encore plus compliqué parce que je ne fais pas que des tocs, j'envoie pas que des jabs, j'envoie aussi des directs, tic, toc, tic, tic, toc. Et le dernier était aussi compliqué parce que j'ai feinté, j'ai fait un t. Toc. Et en fait, Volkanovski et Holloway, ils sont très très forts là-dedans, c'est-à-dire qu'ils imposent un rythme qui est très compliqué à suivre parce qu'il y a beaucoup de variété dedans. Et en plus de ça, ils varient leurs attaques. Donc, ils n'ont pas tic et toc simplement, ils ont un alphabet chinois parce qu'il y a une variété énorme de coups. Et défensivement, pour leur adversaire, c'est très compliqué parce que ça peut venir à tout moment et il y a tous les angles, toutes les armes qui peuvent venir à tous les niveaux, que ce soit à la jambe, au corps, à la tête. Et ça, c'est vraiment très, très compliqué. Donc, je voulais commencer par ce jeu pour exprimer à quel point ces deux gars sont super loin et c'est archi compliqué de combattre contre eux. D'autant plus que Max Holloway, en plus de gérer le rythme et d'envoyer beaucoup d'attaques, il impose un volume et une intensité qui est très, très, très élevé. Alex Volkanovski est le seul sur l'ère récente à avoir réellement su gérer en featherweight cette cadence et ce rythme imposé par Max Holloway. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui décrit très bien les deux. Donc on voulait structurer un peu les podcasts. On va d'abord faire le profiling de Max Holloway et de Volkanovski. Après, on va voir un peu comment ça se dynamise. Donc moi, de mon côté, je pense qu'on ne va pas trop s'éterniser là-dessus puisque tout le monde connaît Max Holloway, tout le monde connaît Volkanovski. Il y a des combattants, on skip un peu leur combat, même s'ils sont main event et tout, on regarde que d'un œil. Max Holloway, Volkanovski, on regarde ultra attentivement. Donc on sait que Max Holloway, c'est quelqu'un qui impose une grosse pression, un volume de jeu extraordinaire. Il est souvent critiqué parce qu'il encaisse beaucoup, mais qu'il n'encaisserait pas beaucoup s'il était tout le temps au contact de son adversaire. Il essaie de travailler un maximum à distance de boxe anglaise, même s'il utilise très très bien ses kicks. Et son objectif, c'est juste d'étouffer, de faire suffoquer son adversaire sous la pression et le volume. Excellent clinch, excellent takedown defense. C'est pas quelqu'un qui va juste défendre et empêcher l'amener au sol, il va défendre pour empêcher l'amener au sol et essayer de sortir directement pour pouvoir réimposer son jeu à volume et fatiguer son adversaire. De l'autre côté, on a Volkanovski, le gars potentiellement avec Usman le plus complet et le plus intelligent. Les deux curseurs côté complet en compétences techniques et côté intellectuel au top du top. Une adaptabilité, comme Guillaume l'a dit, qui est, je pense, incomparable à l'UFC. Incroyable. Il n'y a personne qui a cette adaptabilité. Et lui aussi, une pile électrique. Il ne fait qu'envoyer des informations en permanence à son adversaire. Ça feinte, ça bouge latéralement. Défensivement, il est bien en place. Il vient toucher les mains de son adversaire pour vraiment gérer cette distance. Et il comprend comment annihiler le style de quiconque. Il combat différemment contre Corwin Zombie que contre Max Holloway, que contre Jose Aldo. Donc il vient avec une stratégie qui évolue en plus au fil du combat et il est très difficile il est quasi impossible à battre en fait, tout simplement. Sa carrière en est la preuve.
Alors là, c'est avis, carré dans l'axe. Hein.
Mais ouais. Et donc, que peut faire Max Holloway? Que peut-il faire face à cet Alexander Volkanovski?
Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. Je pense que Max Holloway a plus d'adaptations à faire par rapport à Volkanovski. Ils ont déjà combattu deux fois l'un contre l'autre. Ce que j'ai bien aimé, c'est que Max Holloway, même s'il y a beaucoup de gens qui critiquent sa deuxième performance en disant qu'il n'a rien changé, il a changé énormément.
Il y a des gens qui ont dit ça.
Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont dit ça. Déjà, il est arrivé avec une posture beaucoup plus haute, ce qui permettait d'avoir moins de poids sur ses jambes, parce que le premier combat, c'est littéralement ça qui a fait toute la différence. C'était les low kicks de Volkanovski. Il a aussi cherché à varier ses attaques, à moins dépendre de son jab, parce que forcément, on le dit tout le temps, quand tu jabs quelqu'un de plus petit que toi, tu lui donnes aussi accès à ta jambe avant. Le meilleur exemple de tous les, peut-être pas de tous les temps, mais qu'on sort tout le temps quand on parle de ce genre de dynamique de combat, c'est Moicano contre Qatar qui a ruiné sa jambe avant. Et du coup, tu ruines la jambe avant d'un jabber, il va plus savoir jabber. Alors, Il y a eu des bonnes adaptations et je pense qu'il doit capitaliser sur celles qu'il avait faites entre le premier et le deuxième et encore les améliorer entre le deuxième et le troisième. Donc j'ai pris une liste, je veux juste pas être, enfin je veux juste être sûr de pas oublier quoi que ce soit parce que c'est important de tout dire. Donc garder sa posture haute, c'est très important. Et dans les deux premiers rounds surtout, il avait vraiment également utilisé des low kicks. Et ce que j'aime bien, si Max Holloway utilise des low kicks, c'est qu'il peut se mettre à une distance plus lointaine où lui sait toucher avec ses low kicks sans que Volkanovski ne puisse toucher avec ses low kicks. Sans qu'ils doivent avancer. Et si Volkanovski doit d'abord avancer avant d'envoyer le low kick, ça permet à Max Holloway soit de reculer, soit de contrer, comme il avait fait dans le premier round du deuxième combat. Une des erreurs qu'il a encore faites dans le deuxième round, c'est de travailler de temps en temps en burst. Donc, de temps en temps, Max Holloway, il a une distance qu'il n'aime pas. Et au lieu de mettre la pression pour avancer centimètre par centimètre et envoyer son jeu, de temps en temps, il fait un gros saut vers l'avant, notamment pour ses side kicks ou simplement un gros saut en avant pour envoyer son jab cross. Chaque fois qu'il fait ça contre Volkanovski, il y a un contre qui arrive. Le direct, le crochet ou le low kick qui arrive alors qu'il y a tout son poids sur sa jambe avant. Donc ça, il doit arrêter. Il doit mettre la pression patiemment. Et une fois qu'il a mis sous pression et qu'il arrive vraiment à cadrer Volkanovski, c'est là qu'il peut envoyer son anglaise. D'autant plus que Volkanovski ne pourra plus reculer, sera sur sa jambe arrière, ce qui sera compliqué pour lui d'envoyer des low kicks pour casser la base. Les feintes, évidemment, Volkanovski, il a beaucoup contré. Feinter un contreur, c'est toujours efficace. Les armes longues en initiation, donc initier plutôt avec des low kicks, des jabs et des directs, et utiliser les armes courtes en contre. Quand Volkanovski essaye de casser à distance, uppercut, ça a fonctionné super bien dans le deuxième combat. Il doit absolument avoir bossé ça de plus en plus. Les genoux interceptants, il n'en a pas utilisé beaucoup, mais le peu qu'il a utilisé, ça a bien fonctionné. Et alors, la dernière chose que je veux dire aussi, c'est travailler sur les trois niveaux. Il a tendance à beaucoup attaquer les jambes et la tête. Il oublie de temps en temps le ventre. Et dans le deuxième combat, il a envoyé quelques front kicks. Je voudrais juste qu'il en envoie un peu plus. Je pense que ça peut bien fonctionner à la Conor McGregor contre Chad Mendes. Quand il y a une différence de taille comme ça, les front kicks, ça peut vraiment bien envoyer sans se mettre à risque. Et je pense que là, il doit capitaliser davantage dessus. Donc ça, c'est toutes les notes que j'ai prises pour Max Holloway pour ce troisième combat.
Et côté Volkanovski qui semble progresser de combat en combat, qui même donne des nouvelles versions de Volkanovski combat après combat. Là, que peut-il faire de plus ?
Ouais, forcément, déjà, il a gagné les deux premiers. Donc, on a tendance à dire il ne faut pas changer grand-chose puisqu'il a déjà gagné. Il doit peut-être anticiper ce que Max Holloway compte faire. Mais ce que j'aime bien, c'est que Volkanovski est déjà parti sur les bonnes bases. Quand tu combats contre quelqu'un qui envoie beaucoup de volume et qui travaille en pression, normalement, tu te fais toucher plus que ce que tu touches ton adversaire. Donc, tu as deux options. Soit tu bouges beaucoup pour diminuer le volume de ton adversaire, et surtout diminuer le volume qui touche pour pouvoir être à égalité sur le nombre de frappes ou dépasser sur le nombre de frappes et gagner le combat. Ou bien tu frappes plus fort que ton adversaire. Il te touche deux fois, mais chaque fois que tu touches beaucoup plus fort parce que le dégât immédiat a plus de valeur que le dégât cumulé aux yeux des juges. Donc ça, il avait déjà très très bien compris pour les deux premiers combats. Ce qui est très important pour lui, et c'est ce qui lui a posé problème sur les deux premiers rounds du deuxième fight, c'est quand il était trop sous pression et qu'il n'arrivait pas à avoir de l'espace derrière lui. Donc le premier truc qui est important pour lui, toujours garder de l'espace derrière lui. Et là où il a fait son meilleur taf, c'est quand lui mettait Max Holloway sous pression. Donc je pense que le combat peut se jouer sur, pas quand c'est au centre, mais vraiment qui arrive à pousser l'autre à la cage pour imposer son jeu. Le deuxième point pour moi qui doit absolument changer entre les deux premiers et le troisième, c'est beaucoup plus de clinch. Un truc qui fonctionne très bien contre quelqu'un qui envoie du volume en anglaise, c'est être au clinch. T'es au clinch, il envoie plus de volume, ça peut le fatiguer, etc., etc. Et donc, sur base de la distance, quand Max Holloway fait ses petits bonds vers l'avant, il a trois options, mais il en utilisait quasi que deux généralement. Soit il désengageait avec du footwork latéral, soit il restait sur place et c'est là où il contrait. Il a oublié qu'il pouvait aussi chercher le clinch dans ces situations et je pense que varier avec une troisième option, ça peut davantage perturber Max Holloway parce qu'il n'y aura pas toc et tic, il y aura toc, tic et tac dans les options. Donc ça, je pense que c'est le gros changement qu'il peut faire entre le deuxième et le troisième qui pourrait lui apporter pas mal d'ouverture supplémentaire la fois où il décide de rester sur place pour contrer les attaques de Max Holloway.
Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des échanges au sol, parce que c'est un truc qu'on a quasiment pas vu dans leurs oppositions, parce que l'un et l'autre ont une défense de takedown qui est monstrueuse, et puis c'est même pas nécessairement là où ils veulent aller. Enfin, peut-être que c'est là où voudra peut-être aller plus Volkanovski parce qu'il pourrait peut-être avoir un avantage, mais c'est même pas certain. Est-ce que tu penses que du coup il peut y avoir une volonté de l'un ou de l'autre d'aller plus au sol cette fois-ci?
Je pense que c'est possible. Je vais expliquer pourquoi. En général, je dis que dans cette dynamique de combat, ce n'est pas dans l'intérêt de l'un comme de l'autre de chercher la lutte parce que ça risque de fatiguer.
Ouais.
Mais ils ont tous les deux prouvé que, voilà, maintenant, ils ont tous les deux blindés d'expérience sur des 5 rounds. Et en plus de ça, ils ont l'expérience sur des 5 rounds qui durent 5 rounds avec une haute intensité et ils fatiguent très rarement. Je pense que Volkanovski, on l'a vu fatiguer les 3 dernières minutes contre Ortega. Bah, à mon avis, il a dû travailler là-dessus. Et quand tu vois leurs entraînements, tu sais que le cardio sera au rendez-vous. Donc pour moi, ils peuvent se permettre l'un comme l'autre de, éventuellement, quand l'opportunité se présente, chercher le sol. Ça peut même fonctionner pour Max Holloway parce qu'à mon avis, Volkanovski s'y attend pas du tout. Il ne faut pas oublier que Max Holloway reste capable de le faire, mais c'est très circonstanciel. Donc, je ne pense pas que ça fasse partie du game plan A. Mais dans le combat, si la situation se présente, je pense que ça peut être intéressant pour l'un comme pour l'autre d'avoir le top contrôle. Alors, ouais, c'est un risque à prendre parce qu'évidemment, tu shootes, le gars te défend bien, bah, tu te mets peut-être dans une position compliquée. Mais Volkanovski a prouvé que bah, voilà, quand tu survis au sol de Ortega sur des soumissions qui sont déjà bien ancrées, tu ne dois pas avoir peur normalement de Max Holloway, même si la guillotine de Max Holloway, c'est quelque chose. Hein. Donc, ça pourrait se présenter. Je ne pense pas que ça fera partie de la stratégie A d'un côté comme de l'autre, mais dans le troisième ou quatrième, à partir du troisième, quatrième round, il y en a peut-être un qui voudra surprendre en partant sur un shoot bien timé et ça pourrait proposer une fin de combat différente avec plus de lutte s'il a amené au sol à fonctionner.
D'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose qui, si tu voyais un de tes élèves, un des futurs adversaires de tes élèves, qui a eu l'air d'être mais invincible sur ce genre de domaine, par exemple. Donc, mettons, tu as un des futurs adversaires qu'un de tes élèves va affronter, qui a affronté Marcelo Garcia et il a eu des soumissions qui sont mises et verrouillées à fond contre Marcelo Garcia. Il s'en est sorti. Ton élève n'est pas aussi bon que Marcelo Garcia. Est-ce que toi, du coup, c'est un truc où tu te dis on peut peut-être quand même le surprendre ou est-ce que tu te dirais au contraire, bon, soyons pragmatiques, il vaut mieux ne pas y aller parce que le mec, même si on est humain, tout le monde est censé être finissable. Quand tu coupes les artères, bon, bah normalement, c'est enfin, même les afflux, etc., c'est game over. Mais est-ce que c'est quand même quelque chose que tu prendras en compte en mode n'y allons pas?
Je le prendrai en compte. Pas en mode « n'y allons pas », mais « allons-y quand c'est opportun ». C'est-à-dire que s'il reste 20 secondes dans un round, ben, voilà, et qu'une soumission se présente, pourquoi pas la tenter? Mais effectivement, en début de round, je me dirais « ouais, c'est chaud, si lui n'a pas réussi à le soumettre et qu'il a un meilleur sol que toi, voilà, c'est un peu compliqué. Maintenant, tu ne froisses pas l'ego dans le combattant non plus. Par contre, c'est déjà arrivé. Grit Takeout, une de mes anciennes athlètes, du coup, quand elle avait combattu la première fois au Canada contre Lindsay Garbat, on avait remarqué que la meuf, elle ne tapait pas. Elle n'abandonnait pas, donc il fallait casser le bras ou étrangler jusqu'à l'endormir. Et donc, son partenaire d'entraînement, on a pris un mec pour toute la préparation de ce combat. Et au sol, on lui disait, le gars, il faisait vraiment en sorte de taper au tout dernier moment, juste avant de s'endormir, pour que intellectuellement, elle soit prête à aller jusqu'au bout si nécessaire. Et elle a gagné comme ça. Elle a gagné en l'endormant par étranglement arrière. Donc c'est quelque chose que du coup tu considères et que tu bosses dans ta préparation parce que tu rentres pas dans un combat en disant ok, ça il faut pas faire.
Ouais.
Le combattant, il voit une ouverture, il va vouloir la prendre. Donc si tu le mets dans une restreinte, il risque justement d'être dans le combat à trop être dans la réflexion, genre ah ouais non, on m'a dit de pas envoyer de low kick, j'envoie pas de low kick. Mais il faut, voilà, si tu vois quelqu'un compte très très bien les low kicks, pendant la préparation, si ton athlète a l'habitude d'envoyer des low kicks dans un combat, tu t'assures pendant le training camp qu'il va les envoyer au bon moment quand l'autre sera incapable de contrer, donc en travaillant d'autres angles, en les envoyant sur des retours par exemple en contre plutôt qu'en initiative, ce genre de choses.
All right, on va passer au pronostic pour ce combat-là ou est-ce qu'on avait des petites choses à ajouter?
Good.
Hostie,
Non, moi c'est pareil en fait. C'est le moment de faire débiter le dictionnaire. Et du coup, est-ce que Chris, tu penses que là, après 10 rounds, est-ce que la raison pour laquelle l'un et l'autre n'ont peut-être pas, tu vois, là tu parles de toutes ces améliorations, et je ne sais pas du coup si les entraîneurs l'ont vu ou pas, est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité qu'au deuxième combat ou même vers la fin, que les entraîneurs ou que Max Holloway ou Volkanovski eux-mêmes n'aient pas fait ces ajustements parce qu'ils voient que ça n'est c'est difficilement faisable. Par exemple, je ne sais pas, peut-être que Holloway, pour ce qui est des front kicks ou des coups de genou au corps, il a peut-être vu qu'il avait un trop bon timing, il allait me choper et que du coup, ce n'est pas possible. Est-ce que tu penses que c'est possible ça, que La raison pour laquelle ils n'ont peut-être pas fait tous ces ajustements, c'est parce qu'en fait, ils se sont tellement nullifiés l'un l'autre que juste, c'est pas possible. Et dans ces cas-là, que faire, quoi ?
C'est totalement possible. Enfin, en fait, moi, je fais une analyse en regardant de l'extérieur. Eux, ils ont vécu 50 minutes ensemble dans une cage. Ils se connaissent beaucoup mieux que quiconque d'autre. Donc, ils savent, effectivement, peut-être que moi, j'ai vu dans le deuxième combat que Max Holloway, il a fait deux coups de genou interceptants qui ont été super efficaces, mais peut-être que Max Holloway, en les envoyant, il s'est dit ouais, si à ce moment-là, Volkanovski, ouais, je sais ça, je me retrouvais sur mon dos et tout. Et donc, peut-être qu'il voudra plus les faire, et dans ce cas-là, ben, tu combats en flow state alors. Hein. Dans ce cas-là, tu vas au feeling et tu dis ok, toutes mes réflexions, c'est des éléments bloquants, je dois rentrer, essayer d'être moi-même. Et au final, c'est vrai qu'ils ont deux styles assez différents. Hein. Max Holloway, il aime bien les combats intenses, gros volume, et c'est ça qui est difficile à gérer. Volkanovski, il sait gérer des situations chaotiques, mais il les gère en les transformant en situations contrôlées. Et donc, ça peut être tout simplement ça, la stratégie. Ça peut être Volkanovski, sa stratégie, c'est je fais tout ce que je veux pour... Enfin, je fais tout mon possible pour garder un style de combat contrôlé. Donc, je me déplace beaucoup, je casse le rythme et je m'en fous de faire un combat chiant. Et Max Holloway, lui, il peut se dire, OK, je fais tout pour transformer le combat en bagarre, quitte à ce qu'au début, ben, j'ai du mal, je prenne deux coups, je perds les rounds. Mais à un moment, voilà, il faut que ça rentre et il faut qu'on soit dans la dynamique dans laquelle moi je suis habitué. Ça pourrait très bien se passer comme ça. Effectivement, quand tu n'as pas confiance en les adaptations stratégiques que tes coachs ont vues, bah, tu vas préférer faire un coin flip, tout simplement. Parce que si tu n'as pas confiance en la stratégie, enfin, tu dois avoir confiance en ta stratégie, tu dois en parler au tout début du training camp. Ouais. Mais si quand ton coach arrive, il te dit il faut faire ces 5 points-là, et que tu dis non, les 5 points-là, je ne me sens pas à l'aise de les faire, bah, tu dois trouver une autre stratégie qui convient à ton athlète. C'est pour ça que c'est important de faire un game plan d'athlète que tu connais par cœur, parce que tu peux... Ouais. Genre, si moi, il y a un athlète qui me contacte en disant « tu me fais un game plan pour tel profil », ben, je peux pas le faire, parce que je peux dire ce qui fonctionnerait bien contre tel profil, mais je peux pas te dire si toi, tu es capable de le faire. Ou alors, je vais aussi apprendre par cœur le gars. Ouais. Alors, je devrais demander deux fois la facture. C'est pas con, à bon entendeur.
My God. Donc, pronostic finaux, messieurs. Ah, compliqué, hein. Compliqué.
Bah tiens, lance-toi au lieu de faire de l'esprit là.
Ah bah je vais faire Putain, j'ai tellement envie que Max le mette KO. J'ai trop envie. Mais c'est même pas que je déteste Volkanovski. Franchement, ce mec là, j'ai un respect énorme pour lui parce que son run qu'il est en train de faire, c'est incroyable. Il a battu Chad Mendes, il a battu tout le monde, il a battu absolument tout le monde, et en plus, il arrive à faire ce que très peu de gars font, c'est même quand tout le monde te déteste pour avoir battu le favori des fans, quand il y a des combats où tu es censé plier les mecs, bah t'arrives en plus à le faire, et qui fait que je pense qu'aujourd'hui tous les mecs à Elsom lors de la revanche de Max Holloway, là, ils sont clairement en train de se dire bon bah oui, en fait le patron c'est vraiment Volkanovski au regard de ce qu'il fait. Donc franchement j'adore, mais je préfère Max Holloway, mais je suis aussi quelqu'un de très raisonnable, et donc je pense que Volkanovski va s'imposer par décision unanime face à Max Holloway. Chris, en fait, je vois, pour moi, Max Holloway ne peut pas le mettre KO en un seul coup. Je pense que c'est pas possible, et je pense qu'il ne peut pas non plus le déborder par son volume comme il le fait avec tous les autres gars. Et donc, il y aura peut-être un knockdown comme lors du premier combat, mais ça va pas être, je pense, suffisant pour réussir à s'imposer contre Volkanovski, surtout qu'il a toujours dans sa back pocket la lutte, tu vois, qui va pas, à mon avis, utiliser énormément, mais qui va utiliser suffisamment pour un petit peu faire dérailler Max Holloway les moments où il faudra se donner de l'air. Donc c'est pour ça que pour moi, ça va être très serré, mais malheureusement, Volkanovski va rester champion. Chris, vas-y.
J'aime beaucoup ce que tu as dit, parce qu'effectivement, j'ai du mal à concevoir comment on pourrait détester Max Holloway ou détester Volkanovski. En fait, le seul truc que j'aime pas dans ce combat, c'est qu'il y en a un des deux qui va perdre. Ouais, sauf si c'est égalité. Mais, donc ça, c'est le seul truc que j'aime pas. J'adore effectivement les deux combattants. Et tu as raison, la seule raison pour laquelle certaines personnes détestaient Volkanovski, c'est pas parce qu'ils détestaient Volkanovski, c'est qu'ils détestaient simplement celui qui avait battu Max Holloway. C'est totalement une approche différente. On est l'année des surprises. Il y a tellement de pronostics que j'ai chié, pardon pour le mot, cette année, en étant genre, ouais, mais il est favori, et c'est normal, comme pour Tsarukyan contre Gamrot ce week-end passé.
Bravo.
Vraiment bravo. Quel combat d'ailleurs. Je vois bien Max Holloway à la décision. Autant je vois le chemin vers la victoire pour Volkanovski, autant je peux voir un Max Holloway s'imposer à la décision avec notamment les nouveaux critères des juges où on juge beaucoup moins le contrôle. Et je pense que Volkanovski peut avoir justement ces temps de contrôle pour varier son jeu, mais que ça ne scorera pas assez. Donc ouais, je vais mettre Max Holloway à la décision. C'est l'année des surprises. Et je pense que Holloway à la décision, c'est une très légère surprise. Mais voilà, je vais mettre ça comme prono.
Que les dieux du MMA t'entendent. Big Rusty.
Eh ben, je sais pas pourquoi, je vois bien un KO de Volkanovski.
Oh non.
Non mais j'en sais rien. Non mais en fait parce que je sais pas pourquoi j'ai envie de me dire que cette fois-ci donc les deux forcément il y a des adaptations à faire, ils vont arriver avec des game plans adaptés différents et je sais pas pourquoi je vois bien un Volkanovski qui a un game plan qui est toujours basé sur l'activité, les feintes, le volume etc. mais qui à certains moments cette fois-ci va aller pour tuer, mais vraiment salement. Peut-être en se basant sur le fait que ben il y a un jour où les mentons lâchent et celui de Max Holloway, ça fait un sacré bout de temps qu'il est mis à rude épreuve quand même. On sait qu'il a quand même de la dynamite dans les poings. Volkanovski, je crois que c'est Chad Mendes qui l'avait mis KO. Oui, je crois que c'était ça. Et je sais pas pourquoi, mais je pense que lorsque Volkanovski décide d'y aller pour le chaos et donc il fera pas ça bêtement, hein, ce sera pas une Roy Nelson, il va le set up etc. mais j'ai très peur que le menton de Max ce soit là où il lâche en fait. Wow. Et donc je vais dire énorme surprise, mais je vais dire chaos de Volkanovski, troisième round. Deuxième, ouais. Troisième, ouais.
Ouais, c'est risqué, mais effectivement, c'est deux gars qui sont ultra durables, mais effectivement, ils ont encaissé, surtout Max Holloway, des gros dégâts au cours de leur carrière. Et comme tu as dit, il y a ce truc qu'on ne sait pas calculer, et l'équation est inconnue encore à ce jour, c'est le menton. Quelle est la solution derrière le menton? Et on a déjà vu tellement de gars qui reposaient leur carrière sur leur menton, et quand ça lâche, bah, leur carrière est finie. L'exemple le plus connu, c'est Chuck Liddell, évidemment, ouais. Qui avait un style comparable. Enfin, allez. Vite fait comparable à Max Holloway, c'est-à-dire intensité de combat, j'encaisse, je fléchis même pas. Parce qu'il y a beaucoup de combattants, c'est vrai qu'on aurait pu le dire de Max Holloway, tu as des combattants, ils encaissent, en pleine combinaison, ben, ils arrêtent et ils reculent. Max Holloway, il est dans sa combinaison, il va encaisser, sa combinaison, elle continue et c'est très difficile à gérer. Et le seul qui est parvenu justement à stopper des combinaisons de Max Holloway,
c'est Poirier.
En featherweight, c'est Volkanovski et Poirier en lightweight.
Oui.
Mais Poirier en lightweight, effectivement, aussi. En même temps, ça frappe plus dur en lightweight.
Ouais, c'est pour ça. Mmh. Ouais. C'est pour ça que je dis ça, mais tout en gardant bien à l'esprit que dans ces catégories de poids, les KO sont quand même assez rares, ouais. Malgré tout. Donc voilà, je suis conscient, mais voilà, je ne sais pas pourquoi, je vois bien une explosion.
Ah bah d'accord, merci.
Explosion.
Explosion. Alors, donc, on va passer maintenant au main event en Israël, Seigneur Jared Cannonier. Chris, pour toi, comment Jared Cannonier peut créer la surprise? Adesanya est grandissime favori. On a du mal à voir comment est-ce que le challenger peut créer la surprise.
En fait, on a du mal à le voir tout simplement parce que dans son style de base, donc si Jared Cannonier combat comme il combat d'habitude, il y a vraiment très peu de chances qu'il gagne. Il doit sortir de sa zone de confort, il doit sortir de son statut habituel. Pour préparer le podcast ici, j'ai revu son combat contre Anderson Silva, parce que je me disais que ça allait être une bonne façon de voir comment il appréhende un très bon striker qui a notamment de bons contres. La différence évidemment entre Adesanya et Silva, c'est qu'Adesanya, en plus d'avoir d'excellents contres, il initie très très bien, chose que Anderson Silva faisait bien, mais trop rarement. Et Cannonier est arrivé avec un volume de jeu extrêmement, extrêmement bas. Et il a de manière générale un volume de jeu qui est très très bas, donc on pourrait s'attendre à un combat un peu comme contre Yoel Romero, j'ai l'impression. En tout cas, s'ils restent tous les deux dans leur style, on va avoir un combat où Adesanya va chercher la décision, il va chercher à toucher davantage, principalement avec ses low kicks et that's it. Cannonier aussi, hein, il, très faible volume de jeu, il travaille en explosion, c'est pour ça qu'il a un faible volume de jeu, parce que s'il augmente son volume de jeu en explosant tout le temps, ben il se fatigue et il tient jamais 5 rounds, même 3 rounds. Il utilise très très bien son low kick, mais est-ce que tu vas réussir à out low kick un kickboxer de base? Je pense pas. Donc pour moi, la plus grosse chance de Cannonier, c'est de surprendre avec son explosivité dès le début du combat. Israel Adesanya, c'est quelqu'un qui a besoin justement de contrôle, de poser son jeu, d'être à une distance lointaine, de calculer, d'avoir un premier round d'observation, etc., etc. Si tu lui donnes ça, tu sais que tu vas perdre. Donc ça sert à rien. Je sais qu'en allant fort dès le début, tu risques de fatiguer et qu'après le troisième round, tu sois cuit et tu te fasses finaliser. Mais si tu viens dans un combat contrôlé contre Adesanya, tu perds quand même et tu repars sans la ceinture. Donc autant prendre un risque. Et pour moi, Cannonier, il doit venir mettre la pression, jouer de son explosivité, surprendre avec son explosivité avant qu'Adesanya ait le temps de le lire. C'est pour moi son... Après, je peux vraiment me tromper parce qu'il y a tellement de surprises cette année que j'ai peur d'être trop noir et blanc. Je suis conscient qu'il y a d'autres possibilités de le surprendre. Mais je pense que là où il se mettrait le plus de chances de son côté, ouais, c'est de surprendre dès le début, de ne pas laisser le moindre espace de venir avec son... Et justement, utiliser cette explosivité qu'il a pour le mettre KO ou knockdown et puis finir au sol comme il l'a fait contre Brunson. Il a montré des compétences pour finaliser dès qu'il en a l'opportunité. Mais là, il ne faut pas l'attendre. Contre Adesanya, tu n'attends pas une opportunité, tu te la crées. Et pour la créer, tu dois mettre la pression dès le début et lui amener le combat sans qu'il ait le temps de lire à son aise.
Mais c'est là où c'est compliqué, c'est que c'est un petit peu là, ce qu'on avait aussi comme réflexion quand il y a eu ce combat qui n'a jamais eu lieu entre Anthony Johnson et John Jones. Mais c'est là où c'est complexe, c'est d'un autre côté, comment est-ce que tu fais pour exploser, mais quand même dans ton explosion, en réussissant à surprendre quelqu'un qui est capable de pas juste reculer, mais reculer des accès, qui est capable de reculer en désaxant et en contrant. Et en fait, c'est là où je me dis que, mais je sais que du coup, tu as dit ça parce qu'il fallait trouver un truc, mais c'est, je me dis en fait, même dans des explosions, si c'est des explosions juste en comptant sur la rapidité de mouvement et la vitesse de rapprochement par rapport à ton adversaire, même ça ne suffirait pas s'il n'y a pas de setup intelligent, en fait. Et c'est ça qui est terrible.
Bien sûr, on l'a vu contre Vettori. Vettori, au début, il a voulu un peu exploser en ligne et il est parti au col roulé, comme on dit en Belgique. Ça.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
C'est un magasin, il est parti à l'Intermarché. Voilà. Effectivement, tu dois le faire intelligemment, tu dois essayer de faire peur par ton explosivité à Adesanya, histoire que Adesanya se mette lui-même sur l'extérieur et se limite les mouvements vers l'arrière. Et puis tu dois essayer d'un peu anticiper en disant « Ok, je ferme une porte sur ma droite pour le forcer à faire ses déplacements latéraux vers ma gauche et c'est à ce moment-là que j'explose. » Ce qui peut bien fonctionner, évidemment, ce sont les shifts. J'ai rarement vu Cannonier shifter, mais voilà, ouais. Quand tu as le temps de te préparer pour quelqu'un, tu peux travailler certains, ça s'apprend assez vite, tu peux travailler certaines combinaisons qui sont adéquates à certaines situations que tu veux créer. Donc, comme tu le dis, il faut être intelligent, tu ne peux pas burst au milieu de la cage quand il a tout l'espace derrière lui, tu ne peux pas burst tout le temps, parce que sinon il calcule ton rythme. De temps en temps, tu dois envoyer des lazy jabs, comme ça, tu dois changer le rythme, c'est tac, tac, et puis là tu exploses vraiment au moment où il a peu d'espace pour reculer et au moment où tu sais que son option pour désengager, c'est que d'un seul côté ou de rester sur place. Et ça permet déjà de limiter les options pour mettre plus de chances de ton côté de le surprendre.
Mais c'est ça, parce que possible, mais aussi.
Ouais, mais parce que c'est vrai que en fait, bon, il shifte pas. C'est vrai que j'ai pas non plus le souvenir qu'il ait shifté, mais il peut combattre des deux stances Cannonier. Oui. Mais c'est, par contre, tu me dis si je me trompe, mais des souvenirs que j'ai, il est pas très bon pour cadrer non plus, en fait, pour mettre la pression et cadrer. Et c'est ça, et c'est ce qui est dommage pour quelqu'un qui a des kicks, parce que ce qu'on dit souvent, c'est que l'avantage de cadrer, c'est que tu peux donc rapprocher ton adversaire de la cage et ça lui coupe donc la retraite arrière, qui est une des retraites les plus importantes. Et lorsqu'il va d'un côté ou de l'autre, eh ben, tu le savates de low kick, parce qu'on ne peut pas en même temps se déplacer et en même temps contrer des low kicks.
Ouais, ou l'encaisser tout simplement.
Ouais, voilà. Et c'est là où je me dis que peut-être que c'est là où il aurait une chance, Cannonier, c'est en se forçant à faire un truc qu'il ne fait jamais, c'est-à-dire de vraiment, un, mettre la pression et deux, cadrer. On est d'accord, c'est ultra chaud. Et si c'était aussi facile, les gens l'auraient déjà fait contre Adesanya. Mais bah, l'avantage, c'est que, un, bah, il a une moins bonne allonge, une moins grande allonge que Adesanya, il me semble. En plus de ça, bah, du coup, il est. Ouais, pourtant, putain, le seul truc que j'avais à faire aujourd'hui, c'était regarder les stats. Putain. Cannonier aurait tous les avantages parce que, comme il a une moins grande allonge, bah, c'est vrai qu'il a tout intérêt à casser la distance le plus possible parce que ça lui ouvre beaucoup plus de possibilités que s'il reste à distance où il va se faire allumer comme un avion par une DCA. Et c'est vrai que c'est là où ce serait intéressant s'il y arrive, mais c'est que bah, s'il est capable de mettre tout ça en place, contre Adesanya, bah c'est vraiment là où il serait dans un monde qui, où il aurait peut-être pas un avantage, mais en tout cas, il se donnerait le plus d'avantages possible compte tenu de la situation. Maintenant, du coup, reste à savoir si c'est possible. Parce que bah, déjà, être un très bon cadreur, c'est difficilement quelque chose qui s'apprend rapidement. Et généralement, que ceux qui sont des bons cadreurs, on pense à Rafael dos Anjos, ils en font presque une carrière. Mais néanmoins, ce serait intéressant de le voir essayer ce genre de choses. Je ne sais pas ce que tu en penses, Chris.
Bah oui, tu dois essayer. Quand tu pars underdog comme ça, tu dois trouver les moyens de te donner les chances. Et effectivement, comme tu l'as très très bien dit, si tu restes à la distance d'Adesanya quand t'es plus petit que lui, bah tu te fais pointer toute la soirée et tu perds à la décision où il trouvera le finish. D'ailleurs, Costa, c'était exactement ça.
C'est ça.
Costa, il est resté à la distance d'Adesanya. Il était méconnaissable et il a trouvé aucun moyen de casser la distance, alors que généralement, justement, c'est un gars qui met la pression. Comme quoi, c'est très difficile de cadrer Adesanya, et je pense que si quelqu'un d'aussi agressif et je m'en foutiste, je dirais presque que Costa n'y est pas parvenu, c'est que c'est compliqué. Donc, Cannonier, très gros challenge face à lui, mais il n'a pas le choix que d'essayer, et je pense que c'est la stratégie à adopter. Comme tu l'as très bien dit, il a des très très bons low kicks, très puissants. S'il arrive à toucher avec un low kick, il doit suivre derrière. Absolument. C'est d'ailleurs quelque chose que Costa fait très bien, c'est initier généralement plutôt avec un middle kick et puis venir avec de l'anglaise derrière. C'est un peu le même principe, sauf que c'est encore mieux face à quelqu'un qui se déplace bien. C'est un gros low kick, sa jambe elle est inutile pendant une fraction de seconde le temps qu'il la repositionne pour se redéplacer, et cette fraction de seconde doit être utilisée pour casser la distance et venir échanger en anglaise.
Et puis en plus, si c'est contre la cage, j'ai envie de dire, c'est même en clinch, il a peut-être un moins grand savoir-faire technique que Adesanya, mais on a vu contre Bronson que s'il touche, il peut faire super mal et il peut même mettre KO. Donc en plus de ça, c'est tout un game plan théoriquement qui serait cohérent, parce que non seulement ça lui permet d'avoir des explosions où il a une plus grande probabilité de toucher, puisqu'Adesanya n'a pas les retraites qu'il a normalement, s'il arrive à être mis le dos contre la cage. Et en plus de ça, même s'il rate son explosion et qui ne touche pas en première intention, il peut se retrouver en clinch contre la cage, théoriquement en position dominante contre Adesanya, et peut-être envoyer des coudes. Attention, hein, on a vu qu'Adesanya était très bon même contre Vettori pour se sortir même de ces situations-là où c'est un contre un gros lutteur, où il est dos contre la cage. Donc voilà, on est tous d'accord hein, pour dire que c'est quasi impossible, mais c'est peut-être là où il a le plus de chance dans l'impossibilité du truc, quoi.
Oui, c'est ça. Après, quand tu combats quelqu'un qui est difficile à battre, tu regardes ses anciens combats et tu te demandes pourquoi il a perdu. Contre Jan Błachowicz, on dit beaucoup la lutte, mais il y avait aussi la gestion de rythme. Mais je n'ai pas l'impression que Jared Cannonier soit capable de surprendre autant que Błachowicz a réussi à le faire contre Adesanya. Et les autres fois où il a été mis en difficulté, c'est notamment son dernier combat contre Whittaker, mais il n'a pas du tout le style de Whittaker. Et d'ailleurs, les maths en MMA, ça n'existe pas, mais on a vu à quel point Cannonier a eu aussi beaucoup de mal avec les déplacements, la gestion de la distance de Whittaker. Donc je ne le vois pas capable d'appliquer ça non plus. Donc il doit rester dans ses compétences, mais il doit modifier son style pour mettre ses compétences différemment en valeur dans la cage. Et comme tu le dis, pression, essayer de casser la distance, au pire, au clinch, essayer de trouver une ouverture. Mais voilà, on est en train de dire tout ça pour dire quelles sont les infimes chances de victoire de Jared Cannonier, en étant totalement conscient qu'a priori, c'est totalement à la portée d'Adesanya de gérer ce combat de A à Z, comme il le fait si bien, et qu'on n'aurait pas de surprise. Mais encore une fois, c'est l'année des surprises, donc why not.
Ah, du coup, la surprise, d'ailleurs, t'allais dire quoi, Guillaume ? Parce qu'on n'a pas parlé de facteur X, mais le... T'allais dire quoi, d'ailleurs, en faisant ce geste vers l'arrière et les deux mains comme dans Frère des Ours, là ?
Je vais pas...
Boda ! Ouais. Pardon, vas-y.
My God, putain. Je voulais parler du facteur X, justement.
Ouais, c'est ça. Bon, bah, en tout cas, du coup, le Factor X, justement, c'est pour faire quoi tout ça? Ça peut être. Bah, on a fait un podcast, du coup, là-dessus, en touchant un petit peu à ça. Mais je serais curieux de savoir ce que tu en penses, Chris. C'est effectivement, tu l'as dit, c'est l'année des surprises. Et est-ce que tu penses, Chris, qu'il peut y avoir cette espèce de fatigue du champion pour Adesanya qui fait qu'il voit déjà John Jones, il voit déjà plus loin parce que ça le saoule un petit peu au fond d'affronter quelqu'un qui a déjà été battu, il n'y a pas la même excitation? Est-ce que tu penses qu'Adesanya peut tomber dans le même piège que Núñez Peña, que Silva Sonnen quand c'était chaud, que John Jones, Thiago Santos?
Ah, c'est jamais impossible. C'est vrai qu'on est dans une situation où ça pourrait se produire, dans le sens où j'ai l'impression, mon feeling à moi, que l'UFC a fait ce combat pour nous faire patienter sur le résultat de Pereira Strickland, ouais, dans l'espoir que Pereira gagne, parce que là, ce serait le challenge. Et si Adesanya voit ça de la même manière, genre, ok, bon, ouais, on veut me faire affronter Pereira et on me donne un combat d'attente, voilà. Mais j'ai l'impression que Adesanya n'a pas ce mindset. Avant d'être à l'UFC, moi j'avais écrit un article sur lui, je ne sais plus, en 2011 ou un truc comme ça. Le gars faisait des tournois de boxe anglaise et le lendemain des tournois de kickboxing, il faisait 8 combats sur le même week-end et il remportait tout. C'est quelqu'un qui a une soif de combattre, qui a une soif d'apprendre, qui est tout le temps à l'entraînement, qui a une intelligence de combat aussi. Et je n'ai pas l'impression qu'il perde la tête dans les interviews, bien qu'il fasse des trucs bizarres sur Instagram. J'ai entendu, mais j'ai entendu des échos. J'ai l'impression que sur sa voie martiale, il ne perd pas la boule pour l'instant. Et je pense qu'il il va rentrer dans cette cage, il sera préparé, il saura quoi faire. Et je n'ai pas l'impression que ce soit aujourd'hui ce combat-là, d'autant plus qu'il a encore des challenges qui viennent. Et c'est le genre de gars qui, justement, même si le prochain challenge lui semble facile, il n'y a pas de combat facile, mais on voit ce que je veux dire. Étant donné qu'il en a des suivants qui sont très compliqués, je pense qu'il veut absolument prendre sa revanche contre Pereira. Il veut peut-être affronter ce John Jones ou peut-être retenter la chance pour Champ. Il va continuer à s'améliorer parce qu'il sait qu'il ne peut pas se permettre de perdre 3 mois d'évolution s'il veut réussir avec brio ces challenges qu'il attend un peu plus tard dans sa carrière. Et je pense qu'il est capable aussi de se focus vraiment étape par étape avec toute l'expérience qu'il a dans tous les sports de combat par lesquels il est passé.
C'est quoi qui fait de chelou sur Insta?
Oh, c'est des stories particulières. Peggy 18, on va. Wow, Peggy 18, on va dire. Ouais,
what?
Ouais. On en parlera après le podcast. Place au pronostic, messieurs.
Ok. Bah écoutez, voilà, sans surprise maintenant. Enfin, c'est presque la question, c'est est-ce que Adesanya arrive à le finir ou est-ce qu'il gagne par décision? Et je sais que si jamais Canonier crée la surprise, bon bah on l'aura un petit peu dans le baba, quoi. Mais bon. Je pense que là, il n'y a quand même pas grand monde qui est en mode « attention, vous vous trompez sur toute la ligne ». Ouais. Parce que oui, on peut peut-être se tromper, mais quand même, les probabilités sont archi en faveur de Adesanya. Donc, c'est pour ça que je vais pas tenter le diable. Et je vais dire, je pense effectivement que 1, par les low kicks et 2, par ses contres, je pense qu'Adesanya va réussir à trouver la solution à un moment donné. Surtout maintenant qu'il a, ça peut ne rien avoir à voir, hein, mais il a dit qu'il était vraiment maintenant dans une optique de finition, de spectaculaire, de vouloir combattre plus souvent, etc. Et si ça commence dès Canonier, bah, ça peut être très intéressant. Et je pense que du coup, on peut avoir une finition de la part d'Adesanya. Et je dirais bien une finition au troisième round pour Adesanya, un petit KO ou un TKO.
Wow, all right, bigger stake. Chris?
Ouais, moi j'hésite énormément sur la manière aussi. Je me dis que ça peut très bien aller à la décision parce qu'il n'a pas envie de se casser la tête, pas envie de prendre de risques comme il avait fait contre Yoel Romero. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que Canonier est quand même quelqu'un qui voudra cette victoire et qui se rendra compte qu'il ne pourra pas créer un combat serré comme Yoel Romero et que s'il fait du low volume, il va juste donner les rounds à Adesanya et que du coup, il risque de prendre des risques. Belle formulation de phrase. Je vais prendre cette option-là parce que j'ai de l'espoir sur un événement qui peps du début à la fin avec beaucoup de finish comme on en a eu il y a 2 semaines. Donc, deuxième round pour Adesanya avec un Canonier qui perd patience. Et d'ailleurs, on a vu Canonier perdre patience de temps en temps, même contre Brunson. La fin du premier round a été très très chaude pour lui sur des erreurs de déplacement. Et une erreur de déplacement comme ça contre Adesanya, ça se payera cash. Donc, je vois Adesanya sur le deuxième.
Eh bien, je vois Adesanya TKO 3e round avec la volonté d'en finir dans la nuit de samedi à dimanche lors de l'UFC 276. Messieurs, et si on parlait Tipa de Strickland contre Pereira? Est-ce que Strickland peut déjouer tout ce que l'UFC, tout ce que je souhaite, tout ce que, ce que pas mal de gens souhaitent, à savoir la trilogie Alex Pereira contre Israel Adesanya? Selon vous, a-t-il les armes, sachant qu'on en avait parlé avec Rusty? C'est pas anodin du tout de la part de l'UFC de mettre Pereira, qui n'est pas dans le top 15, face à un membre du top 5 et face à Sean Strickland. C'est parce que c'est la voie la plus simple pour l'UFC de permettre à Pereira d'aller à Israel Adesanya. D'ailleurs, je crois que c'était... Je sais plus si c'était pour le premier combat d'Alex Pereira à l'UFC. En gros, ils expliquaient que justement, en fait, c'était... Ça allait, pour Alex Pereira, ça allait être tous les combats avant Adesanya qui allaient être les plus compliqués. En tout cas, c'était la route vers le titre qui allait être la plus compliquée que le combat contre Israel Adesanya. En soi, jusqu'à présent, c'est pas faux.
Je suis très curieux des cotes de Paris. Désolé de couper avec ça.
Alors, les cotes de Paris, mon cher Chris. J'avoue. Les cotes de Paris, nous sommes à... Nous sommes à...
Za.
On est à... Wow! C'est très serré. 2-0 pour... Aussi... Psst, pardon?
Et, tu pourras après nous donner aussi, par curiosité, les codes du coup pour les deux autres combats?
Ouais, bien sûr, messieurs. Alors, pour Sean Strickland, on est à 2 sur Unibet. 1,80 pour Pereira. Pour Israel Adesanya Canonier, 1,22 Israel Adesanya, 4,50 Canonier.
Ouf,
ça ne me surprend pas. Et pour Volkanovski Holloway, 1,53 Volkanovski, 2,62 Holloway. Et ce qui me surprend vraiment, franchement, ouais, et là moi je suis vraiment sur le cul, c'est qu'il y a 95% des gens qui jouent sur Unibet qui misent sur Volkanovski.
Mais alors, putain, à mon avis, les cotes de Paris de base étaient beaucoup plus serrées, et c'est pour ça qu'il y a eu autant d'argent qui est rentré sur Volkanovski, et ça fait que ça se sépare. Ouais. Et donc, à mon avis, c'est les gros parieurs sont au courant de ça. Et ils attendaient que Holloway tire vers le underdog au maximum pour remettre de l'argent, et ça risque de se resserrer à l'approche du combat, à mon avis.
Voilà.
Et donc, ceux qui pensent vraiment à la victoire de Holloway et qui parient, faites-le prudemment, c'est quand, avec responsabilité.
Exactement. Et si vous avez plus de 18 ans.
Si vous pensez Holloway, c'est peut-être le moment. Ne traînez pas trop, parce qu'à mon avis, les codes vont se rapprocher.
Du coup,
bon,
on revient à nos little moutons.
Pereira, Strickland, les codes me semblent logiques. Je vais expliquer pourquoi. Strickland, c'est quelqu'un qui s'exprime à distance d'anglaise, qui fait qu'avancer, qui met la pression. Pour un kicker comme Pereira, c'est peut-être... le plus compliqué dans la dynamisme du pied-point, mais ça reste à sa portée. Donc, je pense qu'il serait totalement capable, même sous pression, de faire très très mal à Strickland malgré son volume. Il y a une différence de volume entre les deux.
Et juste si on peut rappeler pourquoi, du coup, c'est parce que quelqu'un qui est mis sur le reculoir, c'est plus difficile de kicker. Et en plus, un des contres au low kick qui est les plus connus, c'est aussi des directs. Et du coup, c'est pour ça que
Et Strickland en a des excellents. Strickland, il envoie jamais avec ses hanches. C'est quelqu'un un peu un Ned Diaz, mais avec un peu plus de peps dans les frappes. Ça part de l'épaule, il tend juste son bras et il est à cette distance-là. Donc, on n'a pas l'habitude de voir les coups venir de si près avec une dynamique, avec une mécanique du corps qui est avec si peu de mouvement. C'est juste un bras qui se tend et du coup, on se fait surprendre à l'encaisser. Pourquoi c'est si serré, je pense, parce que là, je regardais avant le podcast. Strickland a mis 4 takedowns sur Uriah Hall. Il en a mis 1 sur Brendan Allen. Il en a mis 3 sur Kurt McGee. Il en a mis 3 sur Arojo. Il en a mis 1 sur Luke Barnett. Il en a mis 1 sur Robert McDaniel. On le voit comme un boxeur, mais il n'hésite pas à utiliser sa lutte quand c'est opportun. Et ici, je pense qu'il ne va pas se mentir à lui-même. Il aura besoin de sa lutte. Et Alex Pereira, on ne l'a pas encore vu réellement contre de bons lutteurs. Et même à ses débuts à l'UFC, Michael Gillis a réussi à l'amener au sol et le contrôler plutôt facilement. Donc, les cotes de Paris sont, à mon avis, si serrées, tout simplement parce qu'on part du principe que si ça reste debout, c'est un 80-20 pour Pereira. Même si Strickland a des petites chances debout, Pereira devrait être largement au-dessus. Mais il y a quand même un 80% de chance que Strickland vienne pour amener au sol et il parvienne et gagne là. Et donc, pour moi, celui qui va gagner de manière super facile. Mais les cotes de Paris sont serrées. Je ne sais pas si on voit ce que je veux dire. On a autant de chances que Strickland gagne facilement que Pereira gagne facilement. Donc, la tournure du combat, on va dire, mais pourquoi les cotes étaient si serrées? Parce que ça paraissait facile pour le gagnant. Mais à l'avance, on ne sait pas dire si ça va rester debout ou si ça va aller au sol, tout simplement.
Merci.
Ben, c'est vrai que ça va être très intéressant de voir si Pereira est impacté dans la manière dont, dont Strickland va amener le combat, s'il est impacté par l'appréhension des mises au sol ou pas, parce que c'est vrai que si c'est un strict match de kickboxing avec des gants de MMA, il peut y avoir surprise, mais comme on l'a vu avec Gokansaki, comme on l'a vu avec d'autres kickboxers qui vont MMA, mais quand même, je pense qu'il devrait avoir largement l'avantage, parce qu'en plus de ça, il a les attributs physiques qui vont bien, il est plus grand, plus puissant, plus long, etc., Pereira. Mais voilà, c'est vrai que ça va être intéressant de voir si son entraînement, parce qu'on a vu quand même une progression entre son premier et son deuxième combat à l'UFC, il a été beaucoup moins facile à garder au sol lors de son deuxième combat, on sentait qu'il avait de meilleurs automatismes. Maintenant, est-ce que c'est suffisant, voilà, pour combler cet énorme gap, cet énorme trou qu'il y a en passant de son adversaire précédent à Sean Strickland? C'est vrai que c'est pas sûr. Et surtout, bah voilà, est-ce que Strickland va réussir à faire déjouer et donner à chaque fois la demi-seconde de retard parce qu'il y a de l'appréhension par rapport à la mise au sol, parce qu'il y a de l'appréhension par rapport au changement de niveau à Pereira? Ça va être vraiment toute la question, et c'est ça qui va être super intéressant, parce que à la limite, même si Pereira arrive à stopper les premières et deuxièmes tentatives de takedown, on sait aussi que, alors il me semble hein, quand même qu'il a un très bon cardio, Strickland, ça fait partie de ces gars-là qui sont vraiment un peu à la Bisping, quoi. Et donc, il pourrait en plus très bien, Strickland, non seulement mettre la pression, mais même si Pereira est en mode triomphant, il a stoppé les deux premières tentatives de takedown, bah en fait, il peut faire une Cain Velasquez, ou en tout cas tenter Pereira, Strickland. Et là, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc, typiquement, Cain Velasquez versus Junior Dos Santos, quoi.
T'as mis plein d'arguments qui sont ultra intéressants sur la table et qui manquaient de mon côté. Effectivement, quand tu combats contre quelqu'un, si t'as peur de te faire amener au sol, ton pied-point, ben, le niveau, il diminue. Et effectivement, Strickland, c'est quelqu'un qui va combattre comme ceci, et donc il va pouvoir garder la même intensité sur tout le combat. T'as pris l'exemple de Bisping pour le cardio. Je prendrai aussi l'exemple des frères Diaz, parce que j'ai comparé le style. C'est aussi, il met une intensité de combat, mais c'est quelqu'un qui se dépense pas. Il est très économe dans ses mouvements, il est très économe dans ses déplacements, il est très économe même dans ses frappes. Et par contre, Pereira, c'est quelqu'un qui travaille de par son physique aussi en explosion, quoi. C'est quelqu'un qui va faire comme ça. Mais du coup, ça va partir haut, et puis les beurs seront de moins en moins puissants. Et donc, c'est vrai que sur la longueur, ça peut aller à l'avantage de Strickland. Maintenant, ça reste un 3 rounds aussi. Donc, ouais, il faut vraiment acculer dès le début pour espérer que Pereira fatigue à partir de la moitié du deuxième ou du début du troisième pour vraiment en tirer avantage.
Mais ce qui est possible, hein, parce qu'on a vu même sur des 3 rounds Pereira fatigué, et oui, du coup ça peut être possible néanmoins.
Surtout si t'arrives à lutter, parce qu'un gars qui vient du pied-point, il n'a pas l'habitude d'être en constante pression, congestion musculaire, et donc ça fatigue plus vite. Et s'il arrive à l'amener au sol au premier round, la vitesse, l'explosivité, la puissance de frappe va en prendre un coup, et c'est là où il va peut-être pouvoir s'imposer debout.
Ouais, c'est vraiment le seul truc qui me fait peur avec ce combat-là, c'est que je trouve qu'au niveau expérience et dans ce qu'on a vu avec Alex Pereira, c'est un peu tôt, je trouve, de mettre face à un Sean Strickland, ou même il a des chances de s'imposer, mais en voyant son run à l'UFC, c'est pas pour l'instant, même calibre Israël Adesanya qui avait vraiment poinçonné les trucs, on était rapidement en train de se dire, bon bah, effectivement, il est prêt à affronter Derek Brunson. Il n'y avait pas du tout pour moi d'inquiétude, c'était en mode, bah, c'est logique qu'il affronte ce gars-là. Là, ouais, j'ai un tout petit peu l'impression que c'est rushé de la part de l'UFC.
Yes.
Donc, bon.
Ouais, mais c'est à peine caché. Hein.
Oui, ah oui.
Mais
il
ne le cache pas, et puis c'est un win-win au final. Même si Strickland gagne, Strickland contre Adesanya, je trouve que ça vend sur papier. Parce qu'au final, parlé, si Strickland
bat
Alex Pereira, t'as un peu ce truc de, bah, il a battu un profil point de dingue. Bon, alors s'il le bat avec sa lutte, on va quand même avoir le contre-argument de la lutte défensive de Adesanya, c'est pas la même que Pereira, mais ça va vendre, le marketing autour va vendre, les cotes de Paris seront quand même plus rapprochées que ce qu'on a ici contre Canonier. Donc c'est un win-win pour l'UFC, franchement. Là, ils ont fait un coup de génie.
Messieurs, ouais, carrément. Les pronostics.
Moi, Strickland à la décision, je m'en fous.
Okay.
Ah ouais?
Ouais, je le dis, ouais, Strickland à
la décision. Ouais, je dis, j'assume.
J'ai dit les termes.
Il a parlé français, Chris. Non, mais moi, je vois Pereira. Je pense que Pereira va mettre KO Sean Strickland.
Ouf.
Je pense qu'il va mettre KO au deuxième round.
Ah, c'est fort possible. Voilà.
Et, mais ce serait une très très grosse performance parce que Sean Strickland, il est sur un run chez les middleweight.
Oui, c'est ça que j'étais en train de
c'est
regarder.
C'est monstrueux.
Hein.
Je crois qu'il a jamais perdu. J'ai peur
il
de
a
dire
pas
des
perdu en middleweight.
Ouais,
il
a pas
il
perdu
est monté
en middleweight.
Contre. Attends, il est, per... il est monté contre Allen, c'est ça. Donc Allen, Jotko, Uriah Hall, Hermanson.
Ouais.
Uriah Hall, quand même, faut savoir le gérer. Hein.
Ouais,
et
ouais.
Il l'a
complètement nullifié.
Tué. Ouais. Il l'a tué.
Ouais, et je... ouais, non, je pense qu'il va vraiment poinçonner son ticket vers le title shot.
Après, voilà, il y a deux de ses trois dernières défaites, c'est Ponzi Nibio et Dos Santos, Eliseu Zaleski Dos Santos. Donc du mal contre des très très bons strikers.
Ouais, ouais qui sont explosifs et qui font salement mal à chaque coup.
Mm-hmm. Tiens, tiens, tiens.
Mais tiens, c'était tiens. En welterweight. Ouais.
Mais c'était en welterweight. À voir. Ouais, ouais, donc ouais. Les deux arguments se valent, je pense.
Mais oui. Rusty, tu t'es pas mouillé?
Je vais essayer de faire c'est Pygmalion, une prophétie autoréalisatrice en disant Pereira, parce que j'ai quand même très envie de le voir contre Adesanya. Donc je vais dire Pereira par KO premier round.
C'est possible parce que c'est Clan qui met la pression directement.
Ouais, c'est ça. Et puis je vois vraiment bien comment dire Pereira choqué avec Poatan, avec ses mains de pierre.
Oh là là.
Je vois bien Pereira choquer Strickland et l'arrêter de manière très violente.
Ce serait fou.
T'imagines ?
C'est un scénario que je vois très bien arriver. Ça. Maintenant, tu... ouais. Non, je reste sur mon Strickland de la décision, mais j'y crois beaucoup moins que quand je l'ai dit maintenant. Parce que je vois bien la guerre se produire dès le début et après
ouais,
30
c'est
secondes,
ça.
Strickland complètement choqué et puis
ouais,
Pereira qui
mais
vient
c'est
finaliser.
Ça
peut aller très vite.
C'est exactement ça. En fait, on n'a pas de mal, je pense, parce qu'on l'a vu pendant
parce qu'on l'a vu, oui, c'est ça.
Boxeur pro, j'ai pas de mal à voir des échanges en anglaise où Pereira ou Strickland ne s'attendait pas à recevoir des impacts comme ça en fait. Et genre, il y a une avancée de Strickland, il va se prendre, je sais pas, un 2 ou un truc comme ça, ou à un moment donné, un crochet gauche de Poatan. Et là, tu vas sentir que le langage corporel n'est pas le même. Mais après, on dit ça, mais d'un autre côté, ça ne s'est pas produit non plus exactement comme ça dans les deux premiers combats à l'UFC de Pereira. Donc, mm-hmm. À voir.
Réponse dans la nuit samedi à dimanche. Dernier combat, parce que là, bon, on va être à une heure de Soum Soum, donc bon, on va faire ça très brièvement. Pedro Munhoz contre Sean O'Malley. Plus gros test en quart de Sean O'Malley. Il était temps, j'ai envie de dire, hein, après nous avoir soigneusement protégé ce cher Sean O'Malley, là, ça y est, il a un nom de la catégorie Bantamweight, messieurs, est-ce que c'est vraiment le test tant attendu, ou c'est un petit peu en trompe-l'œil, ce combat contre Pedro Munhoz, Chris?
J'allais dire trompe-l'œil.
Ouais.
Ouais. Pour deux raisons particulières. Le premier trompe-l'œil que l'UFC veut apporter avant le combat, c'est les low kicks de Pedro Munhoz. Mmh. J'ai pas les stats devant moi, mais clairement, Pedro Munhoz, je pense, sur 2021, c'est celui qui a touché avec le plus de low kicks. Il en a envoyé une blinde sur trois combats différents. Et du coup, on s'était dit, ah, mais contre Dominic Cruz, ça va être intéressant, puisque Dominic Cruz, un combattant qui se déplace blindé, les low kicks, un peu comme Cerrudo qui avait posé beaucoup de problèmes avec ses low kicks à Dominic Cruz, on s'attendait à ce que Pedro Munhoz en fasse de même. Mais on a remarqué qu'en fait, Pedro Munhoz, ses low kicks étaient extrêmement efficaces, surtout face à des gars très statiques. Face à Dominic Cruz, il n'arrivait pas à les envoyer au bon moment. Et Sean O'Malley se déplace aussi énormément latéralement, très bien, in and out. Et j'ai du mal à voir Pedro Munhoz réussir à imposer ses low kicks face à Sean O'Malley. Et donc l'UFC se dit, c'est un peu ça l'argument, genre ouais, Sean O'Malley, son problème, c'est les low kicks, comme on l'a vu qu'on verra notamment. Et Pedro Munhoz en a d'excellents, donc c'est un combat compliqué pour lui. La deuxième raison, c'est Pedro Munhoz a beaucoup de mal contre des gars plus grands que lui. Et là, il y a une sacrée différence de taille. Donc j'ai du mal à voir Pedro Munhoz réussir à casser la distance suffisamment pour marquer ses points sans se faire sniper avant. Et Pedro Munhoz, c'est un très très bon grappleur, mais il utilise quasi jamais sa lutte. Ouais. Quasi jamais sa lutte. Et alors, dernier, le facteur X, sur les 5 derniers combats, il a 1-4, hein, le gars. Alors, il prend que des gros noms,
ouais,
on va pas
vrai.
Se mentir, il prend que des gros noms.
Et
mais
des chocs très serrés aussi. Hein.
C'est, oui, mais le moral est plus spécialement au rendez-vous. On se rend compte aussi qu'il a du mal à juste gagner. Parce que la réalité, c'est ça, c'est des gros combats, c'est des gros noms, mais il les gagne pas, donc il a du mal à trouver ce chemin vers la victoire. Et donc c'est pour ça, je pense que c'est, ça reste un trompe-l'œil, c'est un challenge. Il y a des façons de gagner pour Pedro Munhoz, mais selon moi, c'est pas si serré que ça sur papier. Je sais pas quelles sont les cotes de Paris, si elles sont plutôt alignées avec ce que je dis, ou si je pars dans un.
Nous sommes à 3,25 pour Pedro Munhoz, 1,35 pour Sean O'Malley. 11% voilà, des parieurs qui jouent sur Munhoz.
Voilà, comme quoi les oddsmakers sont d'accord avec moi. C'est un trompe-l'œil selon eux et je suis d'accord avec. Après, c'est la... on l'aura répété assez souvent, c'est l'année des surprises.
Rusty.
Ouais, je suis étonné des cotes de Paris, c'est vrai, parce que même si c'est un trompe-l'œil, c'est vrai que ne serait-ce que, vous l'avez évoqué, mais quand on va nommer les quatre adversaires contre lesquels a perdu Munhoz dans ses cinq derniers combats, on a Aljamain Sterling, champion actuel, Frankie Edgar, ancien champion, qui est toujours au top.
Et qui était un combat très très serré, un des combats de l'année 2021.
Extrêmement serré, Fight of the Night. Jimmy Rivera, où il a gagné, mais qui était un contender. José Aldo, Dominic Cruz. Donc le mec ne prend littéralement que des tueurs. Et même ses autres défaites, c'était contre des gros noms. Il y a John Dodson, Jimmy Rivera et Assun Sao. Donc je suis étonné quand même des cotes de Paris, parce que ben, mine de rien... faire des splits ou des décisions contre ces noms-là, ça veut quand même dire que le mec a largement sa place. Et contre Sean O'Malley, qui est mine de rien encore un petit peu dans... on est dans l'inconnu par rapport à son niveau face à des top, top, top. Je suis très étonné, mais intéressant. Ouais.
Pronostic.
Je vais dire quand même Sean O'Malley et je vais dire par...
Non.
Décision.
Don't you dare. Voilà.
Ouais.
Vas-y, Chris.
Ce serait le premier à finaliser Pedro Munhoz.
Ouais, ouais, c'est pour ça.
L'UFC, je pense. Là, je suis en train de regarder son palmarès. Je me suis rendu compte que le tout premier combat que j'ai vu en live de l'UFC, c'est Pedro Munhoz, en fait. Sa guillotine contre Jerrod Sanders.
Wow.
Une petite histoire avec lui. Quoique, c'était peut-être Albert Tumenov qui combattait juste avant et qui a mis un gros KO. C'était l'un ou l'autre, mais c'était les deux premiers combats que j'ai vus en live dans ma vie. Bref. Ouais, Sean O'Malley. Don't you dare. Tu m'as tenté. T'es KO deuxième.
Oh. Wow.
Il trouve le finish.
Wow.
Putain,
wow.
J'ai osé.
Ouais, il a osé. Non, moi je vois Sean O'Malley aussi, mais par décision. Hein. Par la décision.
Par la décision.
Pour Sean O'Malley. Bon, réponse dans la nuit de samedi à dimanche, hein, en tout cas.
Ouais. Ouais.
Je suis pas dans le train de la hype de Sean O'Malley. Je pense pas qu'il percera vraiment. Mais là, je pense que c'est un combat qui, d'un point de vue style, est vraiment à son avantage. Et donc, je le vois vraiment bien performer et s'illustrer avec. Avec grandiosité.
Wow. Et pareil,
n'oubliez... il est à... sur les rankings officiels, il est à combien, Pedro?
6.
Je vais voir ça tout de suite.
Ça m'étonnerait, sur deux défaites def, vraiment. C'est
ah ouais, non, il est 9.
Non, il est 9.
Ah ouais.
Bon. Entre les top 10.
Ouais. Mais enfin, puis n'oublie pas.
Ça va être difficile pour Sean O'Malley après s'il gagne, il rentre aussi dans le top 10. Et là, je pense que son combat d'après, ça va être complexe. Il faut voir contre quel profil ils le mettent. Mais c'est on n'a pas beaucoup en bantamweight dans le top 10 qui serait facile pour O'Malley ou avantageux pour lui.
Non, c'est clair, ce serait compliqué. Ouais. Bref, messieurs, on a terminé avec cet épisode dans Soum Soum. Complet sur l'UFC 276 dans la nuit de samedi à dimanche. Messieurs, ça nous a fait plaisir. Rusty va bientôt partir à la sieste. Et puis
non,
que...
justement.
Non, là, on est sur un très, très gros rythme. Chris s'est tapé 3h40
Chris va aller travailler
juste après, juste après Arès. Et maintenant, on va aller taffer. Allez, on a bien mérité de s'en poser.
Je crois pas que les gens se rendent compte de ce qu'a fait Chris. Hein. C'est-à-dire que pour commenter à la soirée Arès, il a fait l'aller et le retour dans la même soirée de Belgique jusqu'à Paris.
Tout en étant alcoolisé, drogué, incroyable.
Ben comme d'hab, c'est un mardi pour moi ça.
Bon allez, à très très vite. See ya. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez Asfeur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.